C'est un plaisir renouvelé d'être encore parmi vous. Je suis béni d'être ici. Ça me fait plaisir. Dieu est bon et il s'occupe de nous, il s'occupe de son Église et c'est l'évidence, on est là au début de cette nouvelle année. C'est parce que Dieu est fidèle. Alors, premier culte de 2018. Moment important, non ? Et je sais que je l'ai déjà fait, mais je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous une année 2018 bénie. On dit que ça fait peut-être un peu cliché, tout le monde dit ça, soyez bénis, etc. Mais sincèrement, je prie que Dieu vous comble en 2018 de sa paix et de sa joie. Je prie que sa joie et sa paix vous viennent dans la communion avec Jésus-Christ. Que cette année, Dieu vous accorde de grandir dans la foi. Qu'à la fin de l'année 2018, en rétrospect, vous puissiez regarder votre vie et dire « Ouais, le Seigneur m'a changé. J'ai grandi, j'ai progressé dans l'amour fraternel, dans ma connaissance de Dieu. » Qu'en 2018, vous appreniez, que j'apprenne moi aussi à mieux connaître Jésus. Pourquoi ? Pour mieux le faire connaître. Mieux le connaître pour mieux le faire connaître. Je prie que l'Évangile vous transforme à l'image de Jésus-Christ. Pour que, à tous les jours de 2018, vous puissiez le refléter là où Dieu vous a placé. Les gens qui vous regardent puissent voir Jésus en vous. Et que de cette manière, Dieu soit glorifié. Alors, cet après-midi, j'aimerais examiner un texte avec vous dans l'Ancien Testament. On vient de le lire, c'est un texte prophétique qui annonce des vérités à venir. Et c'est un texte messianique également, qui nous parle de celui que Dieu va envoyer pour libérer. Un texte messianique et prophétique. Alors, je vais relire avec vous une partie du texte qu'on a lu au complet là, le chapitre 7 de 2 Samuel. Je vais lire maintenant des versets 12 à 16, mais avant, on va à nouveau se placer devant Dieu et on va demander au Seigneur de nous disposer, de bénir sa parole, de l'appliquer dans nos vies par son Saint-Esprit et que cette parole nous change et nous transforme comme Dieu veut le faire. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ici. Merci pour les chants, merci pour tout ce qui a été fait et tout ce qui se fait ici dans ton assemblée. Gloire à ton nom pour cette Église. Et Seigneur, maintenant nous te prions que tu fasses le silence dans notre cœur. S'il se trouve quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui est dérangé par un problème, des difficultés, des inquiétudes, quoi que ce soit. Seigneur, maintenant nous voulons déposer tous nos fardeaux à tes pieds. Et nous demandons, Seigneur, que tu nous permettes d'entrer dans cette bénédiction que tu veux donner à ton peuple maintenant. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu répond, Amen. Amen. Lisons le texte. Pas au complet, les versets 11 à 16, qui est le cœur du passage vraiment. Alors voici ce que le texte dit. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et je l'affermirai, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, et ton trône sera pour toujours affermi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Cet après-midi, ça va être tout simple. Je vais diviser mon message en trois parties. Facile à retenir. Première partie, le projet de David. Deuxième partie, les promesses de Dieu à David. Troisième partie, la prière de David. Donc, vous retenez facilement 3 P. Pensée, projet, pensée, promesse et pensée, prière. 3 P. C'est le cœur du message d'aujourd'hui. Alors, question en commençant. Quels sont vos projets ces temps-ci? Est-ce que vous avez des projets? C'est de saison, on commence une nouvelle année et on a fait le bilan et on se projette pendant l'année nouvelle, on pense à tout ce qui pourrait se passer. Alors, quels sont vos projets aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de réaliser l'un ou l'autre de vos projets, l'un ou l'autre de vos rêves? Alors, il faut le dire, évidemment, tout le monde, un jour ou l'autre, a rêvé à quelque chose. Tout le monde a formulé des projets. Alors, typiquement, qu'est-ce qui se passe quand on a des rêves, des projets? Ben, on pense à quelque chose qu'on voudrait faire. On se met à travailler pour le réaliser. Et ça implique des actions concrètes. Ça peut être, pour 2018, peut-être, un projet de mariage. Peut-être un projet de carrière, projet professionnel. Peut-être certains d'entre vous, vous pensez à déménager cette année. Peut-être vous vous projetez déjà à cet été et dire « je vais prendre mes vacances ici ou là ». Projet de vacances, projet d'acquérir une maison peut-être, qui sait. Projet d'avoir des enfants. Projet d'adopter un enfant peut-être. Voyez-vous, on aime avoir des projets. Ça nous motive. Je dirais que bien triste est celui qui ne fait plus de projet dans sa vie. Alors, dans notre texte ici, on retrouve David, le roi David. Et qu'est-ce qu'il fait? David, il est en train de réfléchir. Le cœur de David, c'est aussi comme notre cœur, une usine à projet. David est en train de réfléchir. Et au moment où 2 Samuel 7 est écrit, David, c'est un homme comblé. Imaginez, Dieu l'a pris des enclos à moutons de son père et en a fait un roi. Pouvez-vous vous imaginer cela? Un petit gars qui s'occupe des moutons chez son père et Dieu en fait un roi. Il est en plus le roi d'un royaume qui est finalement unifié, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une longue période où le royaume d'Israël n'était pas unifié. Maintenant, c'est le cas. Et en plus, Israël est en paix. David a même pu se faire construire un palais somptueux en bois de cèdre. Et ça, mes amis, c'est le nec plus ultra à l'époque. Un palais en bois de cèdre. Voyez que David est un homme reconnaissant. Et comme il a du temps à lui maintenant, puisque ses ennemis ont été vaincus, eh bien, qu'est-ce qui se passe ici dans le texte? On le voit. David a une idée. Il lui vient une idée lumineuse. Quand on n'est pas absorbé par toutes sortes d'autres choses, on a le temps pour penser, réfléchir. Et là, il lui vient une idée lumineuse. Et David se dit, et si je construisais un beau temple à Dieu? Bonne idée. Si je construisais un beau temple à Dieu. Alors, il pense à la situation. Il voit ce qui se passe à Jérusalem. Et il se dit, regardez, voyez-vous cela. Moi, j'ai un beau palais et Dieu, lui, n'a même pas d'endroit fixe où habiter. C'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Il regarde la tente mobile où se trouve l'Arche de l'Alliance et il se dit, Yahweh, notre Dieu, mérite bien mieux que cela. La tente, voyez-vous, ça allait quand on était dans le désert. Au temps de Moïse, il fallait se déplacer d'un endroit à l'autre, ça allait. Mais maintenant, le royaume est unifié, on est bien installé, la royauté, la monarchie est stable. Donc l'idée de David part d'une bonne intention. Et qu'est-ce que fait David? Eh bien, il va en parler au prophète Nathan. Bon réflexe. T'as une idée, tu vas en parler au responsable du peuple, à un prophète, à un homme de Dieu. Bonne idée. Et là, même le prophète Nathan est impressionné. Nathan est impressionné. Bonne idée, David. Vas-y, fonce. Imaginez, David est gonflé à bloc. Même le prophète Nathan lui dit, « Bonne idée, vas-y !» Alors, est-ce que David pensait pouvoir repayer à Dieu une partie des bienfaits qu'il avait reçus ? On ne sait pas ce que David avait dans la tête quand il a eu cette idée. Est-ce qu'il avait lui aussi la mentalité de beaucoup de personnes de son époque qui faisaient des choses pour leur divinité afin de s'assurer leur faveur dans le futur ou dans l'avenir ? Voyez-vous, le genre de mentalité où on se dit « Seigneur, n'oublie pas, je t'ai construit un temple, alors bénis-moi cette année. » Oui. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, nous ? On fait des choses pour Dieu. « Seigneur, n'oublie pas, hein, j'ai fait ça pour toi. » Alors, est-ce que c'était la pensée de David ? On ne le souhaite pas, on ne le pense pas, mais peut-être qu'il y avait un peu de ça dans sa pensée. Alors, après avoir partagé son idée à Nathan le prophète, peu de temps se passe pour que Nathan reçoive un message de la part de Dieu. Pas plus tard que la nuit après, Dieu va faire savoir à David que son projet ne va pas aboutir. Le projet ne va pas se réaliser. Douche froide. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation, vous. Un projet vous tient à cœur, ça vous emballe, vous êtes enthousiasmé, vous commencez à rêver, et voilà que tout tombe à l'eau. Vous avez déjà vécu ça ? C'est dur de devoir tout arrêter quand on a déjà investi parfois beaucoup de temps et parfois beaucoup d'argent. Mais ici, heureusement pour David que le projet n'était pas encore très avancé, c'était au stade de penser seulement. Heureusement. Mais à ce moment-ci, à ce point-ci du message, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que le projet de David n'a-t-il pas été accepté par Dieu ? Pourquoi ? Une si bonne idée. Pourquoi ? Est-ce que c'était parce que David n'était pas sincère ? Est-ce que c'était parce que David était hypocrite ? Ou peut-être que parce que David ne plaisait pas à Dieu. Alors, il faut dire que David était loin d'être un homme parfait. On lit l'histoire de David, il a commis des fautes très graves. Mais le témoignage global de la Bible par rapport à David, c'était qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, on ne pense pas que David n'était pas sincère, on ne pense pas qu'il était hypocrite. Pourquoi le projet n'aboutit-il pas ? Ce qu'il faut dire, et que Dieu ne veut pas que David se trompe au sujet de sa volonté. David a besoin d'apprendre des choses importantes par rapport à la volonté de Dieu et par rapport à Dieu lui-même. Il ne faut pas que David s'imagine qu'il fait une fleur à Dieu en lui construisant un temple. « Seigneur, tu as besoin de moi, je vais te faire une faveur, je vais te tirer d'ennui. » Comme si David allait éviter à Dieu une grosse honte en lui donnant un beau temple comme ceux que les divinités païennes avaient. Hein ? On va te sortir de la honte, Dieu. Regarde toutes les divinités autour, les beaux temples qu'ils ont, et toi, tu as cette tente mobile. Et là, David, il pense qu'il va faire une faveur à Dieu, peut-être. Et David a besoin de mieux connaître Dieu. Et Dieu a besoin d'expliquer à David qui il est. Voyez-vous, si Dieu avait voulu un temple, il en aurait eu un. Yahweh, c'est le Tout-Puissant. Les cieux et la terre lui appartiennent. Il n'aurait eu qu'à le dire et ses prophètes lui auraient construit un temple ou auraient donné l'ordre pour que le peuple construise un temple. Pourquoi un temple n'était-il pas nécessaire au Dieu d'Israël ? Pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce que Yahweh n'est pas comme les divinités païennes. Il y a une grande différence entre les dieux des nations autour d'Israël et Yahweh. Les dieux des nations qui entourent Israël devaient avoir des maisons somptueuses, voyez-vous ? Parce que c'était leur gloire. Il leur fallait ce genre d'honneur parce qu'ils n'avaient pas de gloire en eux-mêmes. C'étaient des faux dieux, des idoles, qui n'ont pas de gloire en eux-mêmes. Mais le Dieu de David, c'est un Dieu glorieux. Peu importe où l'arche de l'Alliance se trouve, que ce soit dans une cabane, que ce soit dans une tente, que ce soit n'importe où, la gloire de Dieu ne réside pas dans les pierres. Voyez-vous, la gloire de Dieu n'est pas dans le bâtiment où on est aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin d'un temple fait de mains d'hommes pour être glorieux. Dieu est glorieux en lui-même, contrairement aux idoles païennes qui n'ont aucune gloire en eux-mêmes. Deuxièmement, Dieu ne va pas permettre à David d'aller de l'avant avec son projet parce que il a quelque chose de meilleur pour son serviteur. Dieu dit à David, écoute, arrête-toi et fais attention, je vais te dire quel est mon projet à moi pour toi. Vous, David avait un projet pour Dieu et Dieu dit, non, attends, moi j'ai un projet pour toi. Moi j'ai un projet pour toi. Mes amis, soyons assurés que les projets de Dieu sont toujours meilleurs que les nôtres. Vous êtes convaincus de cela ? Pensez au projet le plus extraordinaire que vous avez dans votre tête et imaginez-vous que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou même penser. Alors une question s'impose pour nous cet après-midi. Avez-vous pris le temps d'écouter quels sont les projets de Dieu pour vous en 2018 ? La Bible dit que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir rempli d'espérance. Jérémie 27, 11. Dieu a des projets pour nous donner un avenir rempli d'espérance. Alors, quel est ici le projet que Dieu forme pour le roi David ? Écoutez ce que le texte nous dit. « Moi, l'Éternel, je vais te bâtir une maison. » Mais de quoi est-ce que Dieu parle ici ?« Moi, l'Éternel, je vais te bâtir une maison. » Est-ce que David n'avait pas déjà un palais en bois de cèdre, une magnifique maison ? Bien sûr. Mais Dieu ne parle pas d'une maison physique ici. Dieu parle d'une dynastie. Dieu veut donner à David une lignée royale. Quelle promesse ! David ne s'y attendait pas du tout. Il est bouleversé. Une lignée royale. Quand on pense aux bénédictions de Dieu, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on pense souvent en premier aux bénédictions matérielles. Bien sûr, on est heureux, Dieu pourvoit nos besoins, le vêtement, la nourriture, les choses de la vie quotidienne. Mais Dieu a beaucoup plus et a beaucoup mieux que cela. 2 Samuel 7 nous parle de promesses extraordinaires. Notre texte nous montre comment Dieu va faire une alliance avec David. Et j'aimerais souligner la qualité de cette alliance-là, une alliance par pure grâce. Alors, quelle est cette alliance ? Dieu propose à David de donner à l'un de ses successeurs un règne qui ne finira jamais. Et des versets 12 à 16, c'est répété 3 fois, comme si Dieu voulait mettre l'accent et faire comprendre à David, il le répète 3 fois, ça va être une alliance de grâce et une alliance éternelle. Quelle promesse ! Et j'aimerais dire aussi que cette alliance, c'est une alliance bien différente de celle qui avait été faite avec le peuple d'Israël au mont Sinaï à l'époque de Moïse. Il faut l'expliquer cela, c'est très important. Une alliance différente de celle qui avait été faite à l'époque de Moïse. Alors, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque de Moïse ? Dieu s'engageait à bénir son peuple s'ils obéissaient. Vous souvenez, mettez en pratique et vous vivrez. Ça, c'était l'alliance du Sinaï. Mettez en pratique et vous vivrez. Une alliance conditionnelle. L'alliance avec Moïse, c'est une alliance conditionnelle. S'il désobéissait, l'alliance était rompue. Et c'est la raison pour laquelle Israël a été déporté en exil à Babylone pendant 70 ans. Parce qu'ils ont effectivement désobéi. Mais remarquez ici la différence. Le verset 14 nous dit que si les descendants de David désobéissent, et Dieu avait prévu qu'ils allaient désobéir, parce qu'ils sont pécheurs et nous le sommes aussi. Si les descendants de David désobéissent, Dieu va les punir, mais ça ne changera rien aux promesses faites à David. Une alliance qui ne dépend pas des hommes et qui ne dépend pas des performances des hommes. Une alliance éternelle et une alliance inconditionnelle. Waouh ! Alors comment comprendre ces promesses ? Un règne qui n'aura pas de fin, un descendant de David qui va régner éternellement, même si ses fils agissent mal. Ça correspond à quoi ? Ça correspond à qui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà utilisé un télescope ? Quelqu'un ? Ah, intéressant. Vous savez que avec un télescope, on peut voir très très loin. On peut regarder les planètes, non ? D'accord ? Mais on peut aussi regarder de plus près avec un télescope, pas vrai ? Pas obligé de regarder les planètes. On peut voir de plus près. Et c'est un peu ce qui se passe ici dans notre texte. Le texte de 2 Samuel 7 a un accomplissement double, en fait. Il y a d'abord l'accomplissement immédiat, et puis il y a l'accomplissement plus lointain. Un accomplissement proche et un accomplissement lointain. C'est comme deux époques qui se télescopent dans notre texte ici. Alors, quand on examine l'histoire d'Israël, on se rend compte qu'effectivement, le fils de David, Salomon, va régner. Et il va construire effectivement une maison à Dieu. C'est le premier temple. Ça a été un bâtiment magnifique. Mais si vous connaissez l'histoire d'Israël, vous savez bien que ce temple a été détruit par les Babyloniens au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et si vous suivez l'histoire d'Israël, vous savez que Salomon lui-même va être puni parce qu'il a épousé des femmes païennes et il a adoré des idoles. Donc Salomon, malgré son règne glorieux, un règne de 40 ans, une période glorieuse dans l'histoire d'Israël, un règne de paix, Salomon ne va pas accomplir la promesse de 2 Samuel 7. Et ses successeurs non plus. Alors vous savez, il y a un deuxième temple qui va être construit à l'époque d'Esdras, donc quelques années après le retour d'exil à Babylone, à l'époque de Nebuchadnezzar. Mais pendant cette époque-là, aucun descendant de David ne va régner sur le trône d'Israël. En l'an 19, le deuxième temple va être agrandi, le temple d'Esdras, qui va être agrandi, rénové par Hérode. C'est le roi qui régnait à l'époque où Jésus est né. Mais Hérode n'est pas lui non plus un descendant de David. Et ce temple-là va aussi être détruit par les Romains en l'an 70. Alors, je pose à nouveau la question. Comment comprendre les promesses de 2 Samuel 7 ? Ça correspond à quoi ? Ça correspond à qui ? Alors, je vous fais languir un peu. On va y revenir dans quelques instants. Mais maintenant, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil rapide au troisième P de notre message. Qui se souvient du premier P du message ? Projet, le deuxième. Promesse. Alors, jetons un coup d'œil maintenant au troisième P, prière. Remarquez la réaction de David après que Dieu lui ait refusé son projet. On voit que David va se présenter à Dieu en prière. Vous voyez ça, hein ? Il va prier. Et sa prière, je dirais qu'elle a beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Remarquez bien, dans la prière de David, pas d'amertume, Pas de reproche à Dieu. Il va pas bouder dans son coin. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as pas accordé mon projet? Avez-vous, il n'y a pas ça dans la prière de David. C'est bien plutôt le contraire. David reconnaît que Dieu l'a traité avec grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qui nous est donné et qu'on n'a pas gagné. On n'a rien fait pour l'avoir. David sait que tout ce que Dieu a fait jusqu'ici et tout ce qu'il a promis pour l'avenir, ce n'est pas comme un geste commercial de la part de Dieu. Connaissez ce que c'est un geste commercial, hein? C'est pas ça, ici. C'est pas un geste commercial de la part de Dieu. Ah, t'as tant fait pour moi, mon cher roi, voilà une petite récompense. Tiens, un pourboire. Non. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parfois, on agit, nous, comme si Dieu fonctionnait comme ça. On fait des choses et on dit, ben, Seigneur, hein? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Rien n'est mérité. Et David le sait bien. Dieu a rappelé au verset 8 et 9 de Samuel 7 tout ce qu'il a déjà fait pour son roi. C'est comme si Dieu lui disait, tu vois, David, tu étais un berger, je t'ai choisi. Tu étais un pauvre berger, je t'ai établi, je t'ai donné la royauté, je t'ai donné des victoires, je t'ai donné une ville, un palais, des descendants. La grâce. Et dans un premier temps, quand on comprend la grâce de Dieu, dans un premier temps, les promesses de Dieu, quel effet elles ont sur David? Elles le rendent humble. Elles le rendent humble. Et Dieu fait grâce aux humbles. Les promesses de Dieu rendent David humble. Il se sent tout petit devant le Seigneur. Et n'est-ce pas qu'on se sent tout petit, nous aussi, quand on commence à penser à tout ce qu'il a fait pour nous? Ça crée une disposition de cœur où on reçoit tout comme un cadeau. Rien n'est mérité. Et David est, en un sens, humilié. Mais dans un sens positif, par la grâce de Dieu et par les promesses de Dieu. Ensuite, les promesses de Dieu le poussent à adorer. Remarquez les paroles que David dit à Dieu dans sa prière. « Comme tu es grand, qui est semblable à toi ?» Ce sont des paroles d'adoration. Après l'humilité, David est emporté dans l'adoration. Et on remarque ensuite, à la fin de la prière, l'audace de la foi. Puisque Dieu lui a fait des promesses si glorieuses, David dit à Dieu, « Seigneur, s'il te plaît, accomplis ta parole. » Voyez-vous comment les promesses de Dieu nourrissent notre foi et nous permettent de venir devant Dieu plein d'assurance, plein de hardiesse. Voyez-vous cela ? David vient devant Dieu avec les propres promesses de Dieu. Seigneur, puisque c'est toi qui as dit que tu allais me donner une dynastie, eh bien, David reprend ces paroles-là et il les prend comme des paroles qui vont lui donner de l'assurance et qui vont lui donner de l'audace devant Dieu, la foi. Et ça m'amène à poser la question pour nous cet après-midi. Connaissez-vous les promesses que Dieu vous fait dans l'Évangile ? Est-ce que vous les connaissez? Des promesses de pardon des péchés, des promesses de nouvelle naissance, des promesses de rémission des péchés, des promesses d'adoption, de réconciliation, de vie éternelle, de vie nouvelle pour toujours avec lui, de communion avec le Seigneur, le Créateur de l'univers. Connaissez-vous les promesses que Dieu vous fait dans l'Évangile? David, dans sa prière, il vient à Dieu avec ses promesses à lui. Seigneur, puisque tu l'as promis, et il prie les promesses de Dieu. Alors, résumons rapidement ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le P, le premier P, c'est quoi? Projet. David a un projet, construire une maison à Dieu. Le deuxième P, promesse. Dieu dit à David, « Moi, je vais te construire une dynastie. » Et là, Dieu parle d'une alliance éternelle et une alliance inconditionnelle. Troisième P, prière. On voit dans la prière de David une prière humble, une prière d'adoration, une prière pleine d'audace et de hardiesse. Revenons maintenant sur cette alliance extraordinaire qu'on trouve des versets 12 à 16. Je vous ai laissé languir un peu. Essayons de voir maintenant pour qui est cette promesse. On l'a dit, plusieurs rois se sont succédés sur le trône de David pendant 4 siècles. 4 siècles, mes amis, 400 ans. Alors vous savez, certains des rois en Israël et dans le royaume de Juda ont été meilleurs que d'autres. Mais on peut dire que tous sont tombés sous la catégorie qu'on trouve au verset 14. « S'il agit mal, je le punirai. » Et Israël, effectivement, a été puni et il est parti en exil. Alors, étant donné ces conditions, est-ce qu'on peut se poser la question « Dieu aurait-il oublié ses promesses ?» Non. Encore une fois, 400 ans après que Dieu ait promis à David un successeur, 4 siècles, faites le calcul à partir d'aujourd'hui. 2018, ça nous amènerait au XVIIe siècle. Pouvez-vous vous mettre en tête l'attente du peuple de Dieu comme du XVIIe siècle aujourd'hui jusqu'à maintenant? Ils ont attendu que Dieu accomplisse ses promesses. 400 ans après que Dieu ait promis à David un successeur, le prophète Ésaïe nous montre comment 2 Samuel 7 va se réaliser. Ésaïe 9, 6 et 7, c'est un verset qu'on a beaucoup cité à Noël et on le connaît bien. Ésaïe 9, 6 et 7 nous montre que ce sera Dieu lui-même qui va accomplir l'alliance. Puisqu'aucun roi n'a été capable d'accomplir l'alliance, Dieu lui-même va l'accomplir. Écoutez le verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il donnera une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voyez-vous le fil conducteur ici? Un Dieu qui va naître, un Dieu qui va venir comme un enfant. Un Dieu qui va être appelé Dieu puissant, Père éternel, et qui va régner sur le trône de David. Dieu n'a pas oublié ses promesses. 1000 ans après David, 1000 ans, 1 millénaire, 400 ans après Ésaïe, un enfant naît, effectivement, dans la maison de David, à Bethléem, et même avant sa naissance, des promesses extraordinaires lui sont données. Écoutez ce que l'ange Gabriel dit à Marie. On a lu ces textes à Noël, il n'y a pas si longtemps. « Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de... fin. » Voyez-vous cela? C'est extraordinaire. Jésus, le fils de David, le Dieu fait homme, va accomplir toutes les promesses de 2 Samuel 7. Il va libérer son peuple, il va pardonner ses péchés, il va lui donner un nouveau temple. Par Jésus, Dieu va construire sa maison parmi les hommes. Et en passant, ça a toujours été le souhait de Dieu de vivre parmi les hommes, depuis le jardin d'Éden. Et quand Jésus est venu, Jean 1 nous dit qu'il est venu tabernacler parmi les hommes. Il est venu faire sa maison parmi les hommes. Voyez-vous, la maison de Dieu, le temple de Dieu, c'est pas un bâtiment. C'est pas ici. La maison de Dieu, c'est son peuple. Et ce que David a entrevu, ce que les prophètes ont prédit, le Nouveau Testament nous l'annonce clairement. L'alliance inconditionnelle, l'alliance éternelle de Dieu avec David. C'est Jésus. C'est Jésus qui vient l'inaugurer. C'est Jésus, le roi, qui accomplit toutes les promesses de 2 Samuel 7. Jésus est dans toute la Bible. Saviez ça? Jésus est dans l'Ancien Testament. Ah, on ne l'appelle pas Jésus, mais le Fils, le Messie, est annoncé dès les tout débuts de l'histoire. Genèse 3:15. Quand Dieu annonçait que le serpent serait détruit, c'est une promesse de la venue du Messie qui allait vaincre le diable. Et sa promesse d'envoyer un Messie continue ici en 2 Samuel 7. Et là, Dieu annonce qu'un roi va venir et son règne à lui ne finira jamais. Jésus a vaincu la mort. Jésus règne aujourd'hui. Mais la question que ce texte nous pose à tous cet après-midi, c'est celle-ci. À comment ce texte nous rejoint, nous, aujourd'hui, à Saint-Maur, en 2018? La question qui se pose, c'est celle-ci, mes amis. Est-ce qu'on a reconnu Jésus comme roi de nos vies? Est-ce que Jésus règne dans votre vie aujourd'hui? Est-ce qu'il est sur le trône de votre cœur? Est-ce qu'il est en train d'exercer sa souveraineté et son autorité dans ta vie? Est-ce qu'on est entré dans son alliance inconditionnelle, éternelle? Alors j'aimerais terminer avec la lecture d'un autre texte qui se trouve dans le prophète Ésaïe, 400 ans après 2 Samuel 7. C'est au chapitre 55. Et ce texte est une invitation. S'il se trouve quelqu'un ici qui désire connaître le roi dont 2 Samuel 7 nous parle, si quelqu'un veut s'engager en 2018, peut-être ce serait pour se faire baptiser, peut-être ce serait pour s'engager dans la vie de l'Église, d'une manière ou d'une autre, eh bien je vous invite à écouter ce que Ésaïe 55 nous dit. Un beau texte, je le lis. Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin ou du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Et là, le verset qui a un rapport direct avec le message d'aujourd'hui. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle. J'accomplirai pour vous avec fidélité les œuvres bienveillantes que j'ai promises à David. Encore une fois, voyez-vous la centralité de ce texte de 2 Samuel 7, les promesses faites 1000 ans avant Jésus-Christ, qui sont valables pour nous. Que l'année 2018 soit une année où vous expérimentez la fidélité de Dieu. Que ce soit une année où vous allez vous engager avec le Seigneur. Vous allez entrer dans cette alliance-là. Vous allez découvrir la grande fidélité, la loyauté, la bonté de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tes promesses qui ont traversé les époques, traversé les âges. Merci Seigneur, parce que même aux époques les plus sombres de l'histoire de ton peuple, là où on se disait, mais comment est-ce que ta promesse va-t-elle pouvoir s'accomplir? Là où il n'y avait plus de roi en Israël, là où le peuple était en exil, jamais, jamais Seigneur, tu n'as renoncé à tes promesses. Seigneur, nous comprenons le caractère de Dieu. Dieu qui a une parole certaine. Dieu qui parle et la chose s'accomplit. Seigneur, accomplis toutes tes promesses dans nos vies par Jésus-Christ en 2018 et nous te disons Amen. Amen.